Donc je raconte, hein, j'aime bien me plonger, enfin essayer de vous plonger aussi dans l'atmosphère de la Bible et de ce qui a pu se passer, comment les gens ont pu vivre certains événements. Alors bonjour, je m'appelle Aminadab, de la tribu de Juda. J'habite Nebi Moussa, un petit village à mi-chemin entre Jérusalem et le Jourdain. Alors j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais venez, je vais aller m'asseoir à l'ombre sous l'olivier. En même temps, je peux surveiller les bêtes. Voilà, vous êtes bien installés tous? Vous m'entendez bien? Ok, parce que dans la campagne, des fois, il faut parler fort et moi, je n'ai pas une voix très forte. Donc j'ai été en vacances, il y a quelques jours, des RTT qui me restaient. Et comme il faisait chaud, j'ai décidé d'aller prendre l'air sur les collines. Sur les hauteurs, il y a toujours un peu de vent, et de là-haut, on a une belle vue sur le désert de Judée, sur la vallée du Jourdain. Et voilà, je me suis installée là. Je ne suis pas encore installée. Je prends le chemin en direction de l'est, et je vois plein de monde sur le chemin. Ils vont tous dans la même direction. Oh, c'est pas habituel. Alors je demande à l'un d'entre eux, « Mais que se passe-t-il? Où est-ce que vous allez ?»« Oh ben, il paraît qu'il y a un homme là-bas un peu fou qui dit des choses bizarres. Alors on va voir. » « Ah bon, je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, donc je vais vous accompagner. » Après une demi-heure de marche, nous nous approchons des rassemblements de caravaniers avec leurs chameaux, et puis des gens de toutes sortes, même des soldats. Et plus on approche, plus on entend une voix virulente qui se détache. Il y a des hommes, des femmes, de toutes conditions, des jeunes, des vieillards, des juifs, des étrangers. J'essaie de m'approcher, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Et je vois enfin celui qui parle. Un homme portant un vêtement de poil de chameau, maintenu par une ceinture de cuir, pieds nus, les cheveux hirsutes, et il harangue la foule. Waouh, quelle allure! Se déranger pour un homme comme ça. Il paraît même, me dit un homme, qu'il ne se nourrit que de miel sauvage et de sauterelles. Bof. Probablement un de la secte des Esséniens. Repentez-vous! Changez de vie! Car le royaume de Dieu est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Waouh, quel message! Et puis le voilà qui entre dans le Jourdain, et les gens viennent et se font baptiser. Plusieurs hommes sont là pour l'aider, probablement certains de ses disciples. D'autres sont là puis se moquent. Se demande ce qui se passe, quel homme étrange. Mais il fallait que je rentre. Je n'avais pas prévenu ma femme. Je me promets de revenir le lendemain, il paraît qu'il est là tous les jours. Le lendemain, je suis partie un peu plus tôt pour aller écouter cet homme. Il y avait déjà foule, mais j'ai trouvé une place pour m'installer assez proche. J'ai demandé à mon voisin, c'est qui cet homme? Comment il s'appelle? Jean. Jean le Baptiste. Et il baptise à tour de bras. Les gens sont touchés. Ils y vont même en pleurant. Bon, pour tout vous dire, il m'a convaincue, moi aussi, et j'y suis passée il y a quelques jours. De l'autre côté du Jourdain, il y a des pharisiens, des sadducéens, qui veulent aussi se faire baptiser. Ouh là là, quand il les voit approcher, il ne mâche pas ses mots. « Race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Cela ne suffit pas de dire que vous êtes des enfants d'Abraham. Regardez ces pierres, Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Repentez-vous donc sincèrement et soyez baptisés. Et puis il continue plus calmement en se tournant vers nous. « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient son vent à la main pour séparer le grain de la paille. Et puis il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Bon, ce soir-là, je suis repartie troublée avec tout ce que j'ai entendu, je ne comprenais pas tout. Mais le fait qu'ils disent « repentez-vous », ça a travaillé mon cœur, là. Le lendemain, je suis retournée. Ma femme n'était pas très contente. Mais moi, c'était plus fort que moi. Il fallait que je demande pardon pour mes péchés et que je me fasse baptiser la nuit. Ça porte conseil, hein, ça m'avait beaucoup travaillé. Je suis encore arrivée dans les premiers et il m'a baptisée. « Sois pardonné », qu'il m'a dit. « Ouf, ça fait du bien. » Peu à peu, les gens sont arrivés en grand nombre. Tout à coup, la foule s'est écartée pour laisser place à un groupe d'hommes, avec leurs grandes robes, des prêtres, des lévites, envoyés par les autorités religieuses. Ils se sont approchés de Jean, l'air menaçant. « Qui es-tu ? Le Messie ? Je ne suis pas le Messie. » a répondu Jean. « Mais alors, qui es-tu ? Élie ? Un prophète ? Non. Mais alors, qui es-tu ? Il nous faut répondre à ceux qui nous envoient. Je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur. Toute vallée sera relevée, toute montagne sera abaissée. Alors la gloire de l'Éternel sera manifesté. Hey, si tu n'es pas le Messie, alors pourquoi est-ce que tu baptises ? Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il se trouve quelqu'un qui vient après moi, que vous ne connaissez pas, mais je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. » Ah, les gens, ils avaient l'air scandalisés par les réponses de Jean. Et ils sont repartis illico, en discutant entre eux avec de grands gestes et pas très contents apparemment. Moi, je suis rentrée. Grâce à ma décision, j'étais dans la paix. Mais en me posant des questions maintenant sur celui qui doit venir et qui est si grand d'après Jean. J'en ai parlé longuement avec ma femme et elle a dit qu'elle m'accompagnerait peut-être le lendemain. Donc le lendemain, j'ai réveillé ma femme très tôt et on est parti. La foule était toujours aussi nombreuse et Jean répétait inlassablement son message. « Repentez-vous !» Et il parlait de celui qui va venir, le Messie. Et puis tout à coup, excusez-moi, des fois je suis émue quand je lis mes textes. Tout à coup, un grand silence se fait. Les gens se retournent là-bas, sûrement encore des autorités religieuses. Il s'écarte pour laisser passer quelques hommes. L'un d'eux est vêtu d'une tunique blanche. Il a un visage calme et resplendissant. Il s'approche de Jean, qui est comme pétrifié, et lui demande le baptême. Mais Jean répond, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. » Et l'homme répond, accepte qu'il en soit ainsi, car il faut accomplir ce que Dieu demande, répond l'homme. Alors Jean le baptise, et aussitôt, le ciel s'est comme ouvert, et une colombe est descendue du ciel. Et ensuite une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Et puis, ils sont partis. Et Jean s'est tourné vers la foule et a dit, ah, « Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu m'avait prévenu. Quand tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Je vous l'atteste, cet homme est le Fils de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. celui qui enlève le péché du monde, celui qui vient après moi, qui m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. J'ai pas bien compris, moi, toutes ces paroles. C'était beaucoup de choses d'un coup. Mais c'était fort, ça. Mon cœur battait. Bon, j'ai pas pu retourner les autres jours. Mes vacances étaient terminées. Mais la suite, c'est un des disciples de Jean, Éléazar, qui m'a raconté. Alors il m'a dit, Jésus, parce que c'est le nom de l'homme qui était passé, il est passé à côté de nous le lendemain et Jean s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu !» Alors avec André, un autre disciple de Jean, on a suivi Jésus toute la journée. Le soir, André est resté avec Jésus, moi je suis retournée près de Jean, qui m'a demandé, tu reviens seul ? Oui, André est resté avec Jésus. Ah, a répondu Jean. Il avait l'air un peu triste. Une autre fois, nous avons vu Jésus qui baptisait dans un autre coin. Et les foules venaient à lui. Alors nous, on était un peu étonnés parce qu'on disait, maintenant c'est lui qui baptise et ça sert à quoi que Jean continue à baptiser ? Mais Jean nous a dit, personne ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Je vous ai dit que je ne suis pas le Christ, je ne suis que le précurseur. Et puis il a continué avec une phrase un peu mystérieuse. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend. Il éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Lui doit devenir plus grand et moi plus petit, de plus en plus petit. Le Père aime le Fils et lui a donné le pouvoir sur toute chose, et celui qui place sa confiance dans le Fils a la vie éternelle, sinon il reste sous la colère de Dieu. Et puis Éléazar a continué. Un jour, Jean est allé à Jérusalem. Il n'est pas souvent en ville parce qu'il faisait un peu remarquer, vu son allure. Mais il voulait aller trouver Hérode pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son demi-frère. Hérode, qui avait une certaine amitié quand même pour Jean, n'a pas apprécié du tout. Il s'est mis en colère et il a fait arrêter Jean et il a fait mettre en prison. Heureusement, nous, ses disciples, on a pu aller de temps en temps le visiter et lui apporter de la nourriture. Et Jean, quand on allait le voir, il se posait beaucoup de questions sur Jésus. Et pourquoi croupissait-il au fond de sa cellule ? Il n'avait pas fini sa tâche. Malgré tout ce qu'il avait dit, il avait l'air de douter. Alors il nous a demandé d'aller trouver Jésus. Demandez-lui si c'est lui, le Messie, ou si nous devons en attendre un autre. Quand va-t-il rétablir le royaume de Dieu que nous attendons ? Alors on est allé trouver Jésus. Et Jésus nous a dit, allez dire à Jean, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors il a ajouté une phrase un peu étrange. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Jean n'a pas répondu. Il n'avait pas l'air complètement rassuré. Peu de temps après, Hérode a organisé une grande fête pour son anniversaire. Avec beaucoup d'invités, c'était un peu la pagaille. Et la fille d'Hérodiade a exécuté une danse devant tous. Et Hérode, qui avait beaucoup bu, était charmé par cette danse. Alors il a dit à cette fille qu'il lui donnerait tout ce qu'elle voulait, même si c'était la moitié de son royaume. Alors, elle est allée demander conseil à sa mère, parce qu'elle ne savait pas quoi répondre. Et c'est horrible, sa mère, qu'est-ce qu'elle a demandé ? la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Imaginez l'horreur, la bêtise. Elle aurait pu avoir la moitié du royaume. Non, sa mère voulait la tête de Jean-Baptiste, notre maître, notre rabbi. Paris Hérode a eu l'air un peu embêté, mais il avait promis, il est obligé de tenir sa promesse. Alors, m'a dit Éléazar, notre maître est mort pour assouvir la vengeance d'une femme. On a pu emmener son corps pour l'ensevelir et nous avons rejoint Jésus, qui était très attristé et ému. Et puis il nous a dit, mais qu'étiez-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément. Et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'a pas paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà, tu sais tout, m'a dit Éléazar. Et depuis, moi aussi, je suis Jésus. Voilà ce qui s'est passé chez nous. Alors, je vous propose...
C'est quoi ?
Alors, je vous propose maintenant de voir quelques points de la vie de Jean-Baptiste qui peuvent nous parler aujourd'hui. D'abord, il y a le premier point, c'est l'appel. Ça bourdonne. Jean avait reçu un appel précis. Je suis la voix qui crie « Préparez le chemin du Seigneur ». On parle souvent de celui qui laboure, qui sème, qui récolte, mais celui qui défriche, c'est quelque chose qui n'est pas marrant à faire. Je l'ai fait cet été chez nous et c'est vraiment pas marrant. C'est difficile. Et en plus, son message n'est pas très gai. Hein. Repentez-vous. Moi, si je dis à quelqu'un « Repends-toi », ça veut dire que je l'accuse d'un péché. Donc finalement, le message de Jean-Baptiste n'était pas très amusant. Repentez-vous. Et puis le message à Hérode, waouh, n'était pas facile non plus. Hein. Pourtant, Jean-Baptiste s'en tient à l'appel qu'il a reçu. Il ne cherche pas la facilité, ni l'extraordinaire. Il ne fera aucun miracle, aucune guérison, nous dit la Bible. Et il ne verra pas grand-chose du royaume qu'il annonçait. Il n'a pas vu la mort ni la résurrection glorieuse de Jésus. Enfin, il n'a rien vu. Il a juste annoncé ce que Dieu lui demandait de faire. Il ne travaillait pas pour lui-même. Son rôle est de préparer les gens, était de préparer les gens à recevoir le message de la bonne nouvelle. Et quand il apprendra que Jésus baptise de son côté et que les foules le suivent, il ne se détourne pas non plus de son appel, il continue à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il aurait pu se dire, ah ça y est, il est là, mon travail est fini, je suis tranquille, je vais le suivre moi aussi. Voir les miracles, les guérisons, participer peut-être. Non, il a continué à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, ce à quoi il était appelé. On est tellement attiré par ce qui sort de l'ordinaire. On aime bien aller voir les prophètes par-ci, par-là, qui nous disent, qui font des choses, qui disent des choses intéressantes. Très souvent, c'est super, mais quelques jours après, la pression est retombée et on attend le prochain. En l'occurrence, est-ce que pour nous, est-ce que nous savons quel est notre appel et notre service ? On n'a peut-être pas forcément un appel comme celui de Jean-Baptiste ou d'autres qui avaient un ministère particulier. Mais peut-être qu'on se détourne facilement du service dans lequel on est engagé. Et peut-être est-ce que c'est la raison pour laquelle on est frustré, parce qu'on n'est pas là où le Seigneur veut qu'on soit. On n'est pas là où le Seigneur nous a appelés. Ce que fait le frère ou la sœur est plus valorisant. Ce que Jésus faisait était peut-être plus valorisant que ce que Jean faisait. Mais ne pas se laisser détourner de son service et continuer d'avancer, ne pas abandonner nos responsabilités, nos engagements et être fidèles, c'est ce que le Seigneur demande de nous. Il y a un verset dans Jérémie 5, verset 3, c'est la deuxième partie du verset, qui dit « Ô Dieu, tes yeux ne peuvent s'attacher qu'à la fidélité ». Dans certaines versions, c'est marqué, c'est écrit « vérité », mais normalement, c'est plus le mot se traduit d'abord par fidélité. Ô Dieu, tes yeux ne peuvent s'attacher qu'à la fidélité. Donc Dieu veut nous renouveler dans notre service et notre don pour que nous ne soyons pas frustrés de ce qu'on fait, mais qu'on soit sûr d'être dans ce que Dieu attend de nous. Le deuxième point, c'est la solitude. Jean a connu la solitude, le découragement. Vous vous souvenez de son histoire, hein? Zacharie, son père, et Élisabeth étaient très âgés. Élisabeth était stérile, et donc il y a eu le miracle de la naissance de Jean-Baptiste. Souvent d'ailleurs, quand il y a un miracle dans la Bible de naissance pour une femme stérile, c'est que la personne est appelée à un ministère particulier. Et puis les prophètes connaissent souvent la solitude aussi. On est incompris. Donc il n'a pas eu de frères et de sœurs. Ses parents âgés ont dû mourir assez tôt. Il est dit qu'il a vécu dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Certains pensent qu'il fréquentait les Esséniens, à Qumran peut-être. C'est pas sûr, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais il avait probablement fait vœu de Naziréa comme Jésus. Et finalement, il avait quelques mois de plus que Jésus, hein, puisque Élisabeth a été enceinte quand Marie est venue lui annoncer qu'elle aussi était enceinte. Donc ils avaient quelques mois de différence, ils étaient cousins. Ils ne devaient pas non plus se connaître beaucoup parce qu'ils n'habitaient pas dans la même région. Donc Jean a dû vivre beaucoup seul. Et c'est probable qu'il se soit retrouvé avec les Esséniens et qu'il était élevé dans ce milieu, puisqu'il vivait dans le désert. Et donc il a commencé en tant que Naziréa, il a commencé comme Jésus son ministère à l'âge de 30 ans. Mais il n'a pas duré longtemps, encore moins longtemps que celui de Jésus. Il avait quelques disciples, mais certains, comme André, l'ont abandonné pour aller suivre Jésus. Et ensuite, emprisonné dans les géoles d'Hérode, il a connu la solitude, la faim certainement, le doute c'est certain, l'incompréhension. Je n'ai fait qu'obéir. Et cette impression de ne pas avoir été jusqu'au bout de ce que Dieu lui demandait. Et le comble de tout, il n'a même pas le temps de dire adieu à ses disciples que sa tête est tombée pour assouvir la vengeance d'une femme. Alors qu'il avait un message si fort, il a connu le doute. Ça peut être rassurant pour nous aussi, parce qu'on peut avoir des périodes de doute dans notre vie. La solitude, le découragement, le doute peuvent aussi nous atteindre, nous qui servons le Seigneur. Une impression peut-être de lassitude, mais là encore, nous avons besoin de persévérer. Le troisième point, je l'ai appelé la révélation incomplète. Le message de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je ne suis pas le Messie, je ne suis que le précurseur, la voix de celui qui crie dans le désert, voici l'agneau de Dieu. Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Et puis surtout, il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il a un message précis, il annonce des choses importantes, dont certaines quand même se réalisent sous ses yeux. Il voit le Fils de Dieu. Heureusement, quelque part, qu'il a cette consolation. Pourtant, après avoir proclamé, Voici l'agneau de Dieu. Il demande à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Il reste avec des questions, beaucoup de questions. La compréhension totale du plan de Dieu ne lui avait pas été révélée. Il devait croire, comme beaucoup à cette époque, que le Messie viendrait, et d'ailleurs ses disciples ont cru ça aussi, hein, ses apôtres, que Jésus venait, qu'il allait renverser les Romains, et que ça y est, le royaume de Dieu allait s'installer en Israël, que le peuple serait libéré. Alors, maintenant que le royaume de Dieu était pour sa génération, peut-être, le royaume de Dieu est proche, que fait-il accroupir dans cette prison? Jésus ne va-t-il pas intervenir? J'ai préparé le chemin. Toutes ces questions, Jean devait se les poser. Dieu ne révèle que des bouts de son plan. Heureusement, car si Jean avait su que c'était 2000 ans après, c'était pas encore là, il n'aurait peut-être pas été aussi convaincu de son message. Heureusement qu'il ne nous dit pas tout ce qui va nous arriver. Jean ne pensait certainement pas avoir un ministère aussi court, parce que je pense que ça n'a pas duré 3 ans. Comme certains apôtres d'ailleurs, qui ont aussi eu une mort pas facile. Donc on ne peut pas prétendre avoir toute la révélation ou la compréhension ni la connaissance totale du plan de Dieu, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour le monde. C'est pour ça qu'il nous faut éviter d'écouter tout ce qui se dit dans tous les coins, sur Internet et tout ça. On ne peut pas prétendre avoir toute la révélation, ni la compréhension, ni la connaissance totale du plan de Dieu. Il nous faut rester humbles et simplement obéir, même si on ne comprend pas tout, que ce soit pour l'Église ou pour nous. Heureusement que le Seigneur ne nous dit pas toujours ce qui va nous arriver. Hein ? Ce ne serait pas forcément facile à comprendre ou à entendre. Donc voilà, il nous faut avancer et au fur et à mesure, Dieu révèle des choses. Alors il y a une question que je me suis posée et qui m'a troublée pendant quelque temps, c'était Jésus, une occasion de chute. Jésus dit à Jean, heureux, Jean est en prison quand il lui dit ça, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, ou qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Jésus peut-il être une occasion de chute? Ça pose question. Bon, nous, on peut être une occasion de chute pour nos frères et sœurs, parce qu'on n'agit pas de la bonne façon, parce qu'on a péché, nous aussi, parce que, voilà, on a plein de... On pourrait avoir des raisons d'être une occasion de chute. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage à ne pas être une occasion de chute. Mais Jésus, le Fils de Dieu, peut-il être une occasion de chute? Oui. Oui, il peut être une occasion de chute pour nous. Le renier, l'abandonner, parce que c'est trop difficile. Jésus a dit de Jean, « Jean était la lumière qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » J'ai eu cette image quand j'avais, préparant ça, j'imaginais Jean au fond de sa cellule, de sa prison, avec ses doutes. Est-ce qu'il est réellement le Messie? Est-ce que je ne me suis pas trompée? S'il est venu établir le royaume de Dieu, je ne devrais pas croupir dans cette prison. Nous devrions tous être libres. Devrait lever une armée pour nous libérer. Et puis, dans le ciel, Jésus regardait la lampe qui représentait Jean. La flamme vacille. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Va-t-il tenir bon ? Oui, Jean a tenu bon. Sa flamme ne s'est pas éteinte là-haut dans le ciel, elle brille encore. Celle de Pierre, elle a vacillé très fort quand il a renié Jésus. Mais elle s'est ranimée. Celle de Judas s'est éteinte. Celle de tous ceux qui sont morts à cause de Jésus brille dans le ciel encore aujourd'hui. Et pour tout cela, il n'a pas été une occasion de chute. Est-ce que ma lumière va briller jusqu'au bout ? Je veux revenir sur un verset du début. Je crois que j'avais écrit ça dans une édito du Connexion, en parlant de l'ami, être ami. Jean-Baptiste se disait ami de Dieu. Pourtant, ami de Jésus. Pourtant, ils se sont pas, je pense pas qu'ils se soient croisés très souvent. Mais il se disait ami de Jésus. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Et pourtant, après avoir dit ça, il a douté. Malgré ses doutes. Et j'étais interpellée et émue en lisant bien, 2 ou 3 jours dans Matthieu, chapitre 14, verset 13. On vient annoncer à Jésus la nouvelle de la mort de Jean. Et il est dit, quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira dans un endroit désert. Je ne pense pas que Jésus se soit sauvé pour se cacher des autorités, parce qu'il avait peur. Mais je crois qu'il est allé pleurer son ami Jean, son ami et cousin Jean. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce verset, ce que j'ai reçu dans mon cœur. Donc Jésus a pris du temps à l'écart pour son ami Jean. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute et qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Dans les temps que nous vivons, nous sommes appelés à tenir ferme dans notre foi, dans notre appel, dans notre service, dans notre engagement d'abord envers Dieu, puis envers les frères et sœurs. Notre fidélité. Continuer à avancer et ne pas être une occasion de chute non plus pour les autres, même si on ne sait pas où, comment et quand. J'ai une pensée, puis je ne voulais pas la partager, mais quand j'ai vu l'image tout à l'heure de cette route qui passe dans le désert, hein, vous avez vu ? Voilà, ça. C'est complètement désert autour. La route est toute droite, on ne voit rien. Il y a cette phrase concernant Jean qui dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Et je me suis dit « Pourquoi dans le désert ? Est-ce que c'est parce qu'on n'entend pas ? Est-ce que c'est parce que les autorités religieuses à cette époque-là, ils n'ont pas entendu ? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Alors ce matin, est-ce qu'on veut entendre sa voix ? Est-ce qu'on veut... Parce que voilà, il y a le désert, il n'y a rien, mais il faut aller jusqu'au bout, il faut persévérer jusqu'au bout. Au bout de la route, là-bas, après l'horizon, il y a quelque chose. Donc on a besoin de persévérance, on a besoin de garder nos yeux sur Jésus et l'écouter, entendre sa voix. Que quand un prophète parle, quand quelqu'un parle, quand la parole de Dieu est annoncée, que ce ne soit pas dans le désert, mais qu'on soit là pour l'écouter, l'entendre, la mettre en pratique. Alors, je vous rappelle les 4 points, puis on va prier. Donc, le premier point, c'était mon appel, mon service. Est-ce que je suis fidèle ? Le découragement et le doute ont-ils un impact sur ma foi ? Est-ce que je reste dans l'humilité par rapport à ce que je crois connaître de Dieu? Même si je reçois des choses, est-ce que les difficultés, l'incompréhension peuvent me faire chuter? Est-ce que ma foi en Jésus peut me faire chuter à certaines occasions? À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi, dit Ésaïe 26, 3. Nous pouvons poser des questions à Dieu. Moi, je pose des questions, j'aime bien poser des questions. Mais tenons ferme. Tenons ferme, même si la réponse tarde. Tenons ferme, même si la réponse tarde. Mais posez des questions. Ben pourquoi c'est écrit ça, Seigneur? Voilà, sur ce message que je vous donne là, plusieurs fois j'ai posé des questions et j'en suis arrivée à pouvoir écrire quelque chose. Mais voilà, la parole de Dieu est tellement merveilleuse et on peut tellement trouver des réponses à nos questions. Et ne serait-ce que d'étudier la vie d'un homme de Dieu dans la parole, ça nous permet de comprendre toujours mieux qui est Dieu. Donc voilà, ce message, je voulais aussi vous encourager à lire de plus en plus la parole et à vous y conformer, ne pas vous laisser décourager par des... Voilà, on s'attend, oh Seigneur, quand est-ce qu'on va voir? Bientôt. Je vous invite à prier. Remettons nos vies à Dieu, tout à nouveau si nécessaire. Renouvelons-lui notre confiance. Juste une minute de silence pour qu'on puisse réfléchir à ce qui a été dit. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour qui tu es, nous te remercions pour la vie que tu manifestes en nous par ton Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, et si nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Nous voulons ce matin te redire, Seigneur, notre amour et notre désir de marcher avec toi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les questions que nous pouvons nous poser. Toi, tu as la réponse. Toi, tu es la réponse. Seigneur, nous voulons vraiment que tu te révèles de plus en plus à nos cœurs, à nos vies, pour que nous puissions être ce que toi, tu veux que nous soyons, que nous puissions tenir ferme, que nous puissions nous laisser conduire par toi, que nous puissions aller jusqu'au bout de ce que tu nous demandes. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de la puissance de ton Saint-Esprit, et on l'a dit aujourd'hui, on l'a chanté, Seigneur, Saint-Esprit, viens nous visiter, que ce soit ici dans l'église, que ce soit dans notre maison, dans notre chambre, que ton Saint-Esprit nous visite pour que nous soyons renouvelés dans la foi, dans notre confiance en toi. Seigneur, nous savons que tes plans s'accomplissent. Nous savons, Seigneur, que tu ne mens pas et que ta parole est la vérité. Seigneur, nous proclamons ta vie ce matin au milieu de nous dans cette assemblée. Je proclame ta vie, je proclame, Seigneur, que tu es celui qui règne, celui qui agit, celui qui te manifeste, Seigneur, quels que soient les problèmes et les difficultés. Tu accomplis ton plan. Tu sais ce que tu fais, Seigneur. Tu sais ce que tu fais. Et nous voulons nous confier en toi toujours plus. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange. Amen.